Éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jodard le 16 mai 1990.
Je reviens un instant sur ce que nous avions vu la dernière fois à propos de l'éducation. Vous voyez, bien comprendre que toute éthique va être le fondement d'une éducation. L'aspect de l'ordre selon la perfection et de l'ordre génétique. Vous retrouvez toujours ça. L'éducation, c'est quoi? C'est la genèse, c'est l'aspect génétique de l'éthique. Vous voulez vis-à-vis d'un petit être qui est tout à fait naturel, qui est plein de virtualité, de promesses. Je sais très bien que c'est complexe. Derrière ces qualités, il y a des petites cornes qui apparaissent et des petites tendances égoïstes. Je ne parle pas encore des conséquences du péché originel, puisque ça, c'est en éthique chrétienne. Je m'aperçois très vite, quand vous parlez de la simplicité d'un enfant, un psychanalyste, il vous rit au nez. Mais non, il n'y a rien de plus complexe qu'un enfant. C'est vrai, une complexité énorme. Il y a des tendances multiples. Alors, à chaque degré d'éthique, éthique fondamentalement humaine, basée sur l'expérience de l'amour d'amitié, éthique religieuse, basée sur l'expérience de l'adoration, éthique chrétienne, basée sur le lien de la foi par rapport au Christ. À chacun de ces degrés, correspond une éducation. Et on doit se poser la question, le devenir. Y a-t-il une véritable éducation au niveau d'une éthique qui serait uniquement, fondamentalement humaine? Et donc, qui pourrait être une éthique laïque. Puisque l'éthique laïque, par définition, c'est celle qui ne parle pas de Dieu, qui ne parle pas du Créateur, qui regarde l'homme. Une éthique positiviste. Mais l'éthique positiviste d'Auguste Comte, vous voyez, serait intéressant du reste à bien voir. Je mets ici Auguste Comte. Il y a une éthique positiviste. Celle de Monod. Auguste Comte, Monod. Et puis des quantités au fond pratiquement de tous les savants. De beaucoup de savants, du moins, tous les savants positivistes. Mais qui fondent l'éthique sur l'aspect biologique. La bioéthique. Quelle mesure la bioéthique se fonde-t-elle sur une éthique positiviste? Question très grave et très importante. Vous voyez, la bioéthique. Parce que Monod dit textuellement, dans la mesure où la science progresse, l'éthique doit s'affiner, doit se préciser. Autrement dit, l'éthique se fonde sur la science biologique. C'est ça le positivisme. Bon, ça, on ne peut pas nier que ça existe. Deuxièmement, alors là, on entre en philosophie. Donc, on n'est plus positiviste. Le philosophe ne peut pas être positiviste, puisqu'il recherche la vérité. Alors, il ne peut plus être positiviste. Au niveau philosophique, j'ai l'éthique de l'amour d'amitié. serait donc, parallèlement à cette éthique, tout le problème de l'éducation. C'est-à-dire le devenir dans l'éthique. Puisque l'éducation, c'est le devenir. Vous prenez un gosse à tel niveau, école maternelle, puis vous le conduisez un peu. Puis vous le reprenez à ce niveau-là, puis vous conduisez jusqu'au moment où, normalement, je crois que toute éducation doit conduire au problème de la personne. D'accord là-dessus. Il y a trois niveaux de la personne. Une personne au niveau de l'amour d'amitié. Non. Une personne au niveau religieux. Une personne au niveau chrétien. Nous le verrons avec le problème de la personne. Alors, la question, c'est que l'éducation peut-elle se fonder uniquement sur la confiance ? Ou implique-t-elle l'autorité? Je pose le problème. C'est un problème très important pour toute philosophie de l'éducation. Saint Jean éducation. Donc, on doit y réfléchir, puisque ça fait partie de nos préoccupations. Saint Jean, pas seulement ceux qui s'en occupent, mais tous. Ça fait partie de la préoccupation de l'école Saint Jean. Alors, est-ce qu'une éducation peut se fonder uniquement sur la confiance, ou est-ce qu'elle implique l'autorité? Samedi, dimanche, on m'avait demandé de faire une petite trois conférences sur la paternité à des pères de famille et des mères de famille étant là à côté. À des pères de famille. Qu'est-ce que c'est que la paternité dans un foyer? Alors, est-ce que le père implique tout de suite l'autorité? Ou est-ce qu'il y a une paternité sans autorité? L'aspect laïque. On recouvre les deux. Mais il y a deux espèces de laïcs. Il y a le laïque positiviste et il y a le laïque ouvert. Tous les deux disent laïque. Le laïque positiviste, c'est celui qui exclut tout le reste. Il y a l'école laïque et puis c'est tout. La laïque, comme on dit. Bon, on voit ce que c'est. Et puis, il y a le point de vue laïque ouvert à autre chose. Ça, c'est le point de vue philosophique. On regarde l'éthique à un niveau humain de l'amour d'amitié. Tandis que là, on regarde uniquement bioéthique. Il y a une éducation bioéthique à la mono. Vous voyez ? Puis il y a une éducation qui est ouverte à autre chose. Ah, vous croyez, on dit, oh, très bien, mais ici, on n'en parle pas. Mais c'est très bien, on ouvre ça, on donne des possibilités. S'il y a un prêtre catholique, un pasteur protestant, un rabbin, puis l'école musulmane, et ainsi de suite. On respecte, on va dire, les jeux. Mais on n'en parle pas. Et donc il y a une distinction formelle sans négation. Ce qui, je crois, est le point de vue philosophique. On reste ouvert. Alors je me pose la question, que représente l'éducation dans un point de vue philosophique? On avait vu la dernière fois que l'autorité n'apparaissait vraiment qu'avec le point de vue religieux. Ce que je crois. Ça reste une question à discuter. Je vous ai donné des arguments, je vois que vous n'apportez pas de sept contrats, donc je me dis que vous êtes d'accord. Donc, alors, est-ce que l'autorité n'apparaît que ici? L'autorité s'enracine dans l'adoration. C'est très grave ce que je dis là. À ce niveau-là, il ne peut y avoir que la confiance dans l'amour d'amitié. Les enfants, maintenez la confiance, c'est ce qu'il dira tout le temps. Que les parents maintiennent leur confiance avec leurs enfants. Par là, ils pourront les éduquer. Peut-on éduquer vraiment sans autorité? Uniquement la confiance. Autrement dit, vous voyez, la question se pose aussi autrement. Peut-on éduquer sans l'obéissance? S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance, c'est par rapport à l'autorité. Et l'autorité regarde la finalité. La confiance regarde le bien. On va coopérer au bien. Il n'y a pas de finalité. La seule finalité serait l'amour d'amitié. Alors, on pourrait avoir une éthique d'amour d'amitié qui implique une certaine finalité. Mais au niveau de l'amour d'amitié, il n'y a pas d'autorité au sens absolu. Les amis reconnaissent une certaine autorité l'un par rapport à l'autre, dans la mesure où il y a une compétence. C'est pour ça que je disais, il y a une autorité de compétence, mais il n'y a pas une autorité au sens fort. Alors, peut-on éduquer sans obéissance? Question très intéressante, Louisa. Nouvelle école, plus d'obéissance, uniquement la confiance. Ça se fait, ça. On a tous lu des livres là-dessus, sur l'éducation sans obéissance. Une vie chrétienne sans obéissance. Tous les matins, on réunirait tout le monde, il y aurait le chef de chantier du couvent qui dirait, qui serait à ce moment-là le prieur, qui dirait, voilà les travaux de la journée. Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Qui veut faire ça? Là, on verrait toutes les bonnes volontés. Il resterait toujours un petit casier ou personne. Alors là, ce serait le prieur qui serait obligé de le faire. Il n'y a personne. Une espèce de petite république uniquement dans la confiance. Est-ce que c'est un rêve, un mythe? Ce serait l'idéal, Jean-Jacques. Il renaîtrait tout le temps un petit peu comme ça, au bord de Genève, oui, au bord du lac. C'est une question très intéressante et très importante. Oui, parce que quand c'est des rêves, il faut crever les rêves et montrer que. L'obéissance implique l'autorité. Il n'y a pas d'éducation sans obéissance. Je crois, personnellement. Je crois que sans obéissance, on ne peut atteindre que des dispositions. Et donc, il n'y a pas acquisition de vertu. Des dispositions. On maintient une bonne humeur, vous voyez. Alors, on donnerait tous les matins une pilule de bonne humeur. Parce qu'on peut maintenir une espèce d'euphorie, vous savez, ça se donne, ça. Une pilule euphorique. Alors, tout le monde aurait sa pilule euphorique le matin. Autant que possible avant l'oraison. C'est pas? Alors on a la pilule euphorique. Ce serait disposition, l'ordre de la disposition. Il ne serait pas stable. Il n'y aurait qu'une disposition. Donc il n'y aurait plus d'éducation. Et je crois qu'arrivé à un certain âge, on serait devant des apaches. Une anarchie complète. Tant que l'enfant est petit, il veut la confiance, confiance suffit. On donne des bonbons, ça va. La pilule euphorique. Le jour où vous apercevez que c'est la pilule euphorique, que ce n'est qu'une disposition, c'est plus suffisant. Je crois qu'il n'y a pas d'éducation au sens fort. Sans autorité et sans obéissance. Donc, sans finalité. Ça va très loin, c'est ça. Si on essaie d'y réfléchir. Alors, Alors, je le dis à titre de réflexion. Personnellement, j'en suis persuadé. Mais c'est lourd de conséquences. Ça voudrait dire que la laïcité ne peut pas éduquer. Et donc, l'école laïque est vouée à l'échec. Les basses classes, toujours les deux sont liés. Oui. Demandez à quelqu'un aujourd'hui, hein, je connais des jeunes qui enseignent dans les lycées, pas dans les universités, ça peut encore aller, mais dans les lycées. Demandez-leur si elles peuvent encore enseigner. Il n'y a pas de discipline. Alors on est obligé de faire la discipline et l'enseignement. C'est très difficile. C'est évident, ils regardent l'enseignement. Et c'est leur argument. Mais est-ce qu'on peut séparer dans le devenir le point de vue de l'enseignement et de l'éducation? Toute la psychologie moderne montre que s'il n'y a pas d'amour, l'intelligence se ferme. Oui, donc c'est voué à l'échec. C'est joué donc à la barbarie. C'est joué, c'est voué à l'anarchie. Tôt ou tard, il y a un vieux reste chrétien, donc il y a un vieux reste, un capital, mais une très grande richesse, il y a un capital chrétien qui demeure. Tant que ce capital chrétien demeure, ça tient. Mais ça tient grâce à ce capital chrétien. Autrement, vite. Et quand ce capital chrétien s'amenuise, alors c'est l'échec. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse philosophiquement là-dessus. Le pape nous le demande, hein, parce qu'il parle tout le temps du point de vue. La chose la plus terrible dans notre monde d'aujourd'hui pour lui, c'est ce point de vue d'une laïcité poussée à l'extrême. Qui fait que le point de vue religieux n'est plus respecté. Vous voyez ? Parce que le point de vue religieux fait partie essentielle de l'homme. Donc si vous mutilez l'homme, dès le point de départ, vous le mutilez en l'oubliant, vous le mutilez en s'opposant. La laïcité numéro un, en s'opposant, positivisme. En l'oubliant, laïcité numéro deux. Oui, parce que vous devez éveiller l'esprit religieux. L'esprit religieux s'éduque. Je ne nais pas avec la vertu de religion. J'acquiers la vertu de religion. Donc, s'il n'y a pas d'éducation religieuse, mais on aboutira à faire des monstres. Au point de vue éthique. Et on terminera par la bioéthique, parce qu'on cherchera un fondement. Vous voyez, ça qui est très très curieux. Si je prends ce point de vue-là, le fondement, ce sera bio. La vie. C'est la vie qui devient le fondement. Parce que ici, nous sommes partis de la finalité. Mais l'amour d'amitié, peut-il exister sans les vertus? On a vu non. L'amour d'amitié implique donc une éducation. Et si l'éducation repose sur l'obéissance? Donc, cette éthique de l'amour d'amitié, où elle se finalise et elle s'appuie sur l'adoration, fondement, ou sur le bio, bioéthique. C'est instable, ça. Cette éthique-là est instable. Elle n'est pas complète. Elle est imparfaite. Or, l'imparfait présuppose toujours quelque chose de fondamental. Ce fondamental sera ou bioéthique. Ça, c'est stable. C'est la science. est intéressant dans la bioéthique, l'effort de bioéthique, essaie de fonder une éthique laïque. C'est pour ça que c'est national. Oui. C'est pour ça que c'est très drôle de voir que le prix de bioéthique accordé à une religieuse, c'est fantasme. C'est extraordinaire, ça. Parce que c'est contradictoire. Terminis. Venez. Parce que bioéthique présuppose justement que ça se fonde sur la science et non pas sur autre chose. Et c'est vrai que l'éthique de l'amour d'amitié, c'est très très important, mais c'est imparfait. Ça demande d'aller plus loin. L'éthique religieuse se fonde sur l'adoration. L'adoration est un fondement, c'est-à-dire Dieu créateur. Et je vois que l'éthique ne peut se fonder sur le Dieu créateur. Et le Dieu créateur me fait comprendre l'autorité. Oui.
Est-ce que la disposition à l'obéissance que donnent les parents jusqu'à ce que l'enfant acquiert son autonomie,
oui,
ne suffit pas à faire à apprendre à l'enfant à aimer une fois qu'il est autonome, l'amour lui-même?
Non, parce que ça l'apprend pas. Vous voyez, ça l'apprend à aimer. Dispositivé. Est-ce que l'amour est dispositivé? C'est le désir. Vous ferez des êtres assoiffés. Alors eux, où ils découvriront, à un moment donné, par la grâce de Dieu, quelque chose de personnel, conversion personnelle. C'est très vrai. Mais ce n'est plus l'éducation. Ça veut dire, ça reste imparfait. Alors l'imparfait veut chercher un fondement. Ce fondement sera ou bioéthique ou l'adoration. Alors je suis d'accord avec vous que dans l'école maternelle, c'est uniquement les dispositions. On joue. Dans l'école maternelle, on ne fait pas beaucoup de distinction entre le jeu et le travail. Oui, on joue. On reste dans la disposition. Mais jusqu'à quel âge peut-on rester dans la disposition pour qu'il y ait vraiment éducation? Je suis d'accord avec vous pour tout à fait l'école maternelle. L'école maternelle n'a peut-être pas besoin, quoi, j'en suis pas sûr, hein. Mais je ferai des concessions. Mais peut-être l'école maternelle, disposition. Moi, je ne crois pas. Je crois que plus l'enfant est jeune, plus l'enfant a besoin de stabilité. Et l'école maternelle a besoin d'être une école religieuse pour être vraiment maternelle. Une école maternelle en religieuse, qui est uniquement une école maternelle, c'est terriblement ennuyeux. Vous avez tous vécu, tous vu ça. Je sais pas, moi, ça crève les yeux comme c'est ennuyeux. Tandis qu'une école maternelle finalisé par l'aspect religieux, ah, c'est une autre chose. Il y a de l'air. C'est curieux, ça. C'est intéressant à étudier de près, vous voyez. Moi, je donne mes impressions, point de vue philosophique, simplement pour situer ces problèmes-là. Mais ça demanderait toute une description là-dessus. Je pose la question, y a-t-il une éducation qui peut exister à un niveau purement laïque? Je dis non. C'est de l'état de la disposition. La disposition suffit-elle? Je dis non. Parce qu'une disposition qui n'est pas orientée vers l'acquisition de la vertu, et la vertu ne peut s'acquérir que par la finalité, et donc que par l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est une suppléance de la finalité. Jésus, c'est un tuteur. Alors on a très vite besoin de ce tuteur comme suppléance de la finalité. Quand on a la finalité, on n'a plus besoin. Au sens strict. Parce qu'on a sa finalité. Au point de vue chrétien, on aura toujours besoin. Parce que on doit rester comme des enfants. C'est le caractère propre de intéressant de saisir ici comment cette éthique de l'amour d'amitié, étant imparfaite, ne peut pas répondre à l'éducation. Seul le parfait engendre. Or, je ne peux éduquer que si je suis parfait, puisqu'il faut engendrer à une vie spirituelle, à une vie humaine. Donc, seul le parfait engendre. Il faut donc avoir le lien avec la finalité, puisque je ne suis parfait que quand je suis relié à ma finalité, pour être capable d'éduquer. Vous voyez, la simple bonne disposition, la confiance, ne suffit pas pour éduquer. On fera des petits avortons. Il me semble bien. Je donne par rapport à principe éthique. Oui.
Est-ce que ça ne peut pas donner une certaine stabilité, enfin pas une vraie stabilité, mais une disposition jusqu'au moment où l'enfant est assez mûr pour comprendre dans l'amour d'amitié qu'il expérimente, que ça implique.
Dans la confiance, oui. L'amour d'amitié, on peut dire.
Une fois qu'il expérimente un vrai amour d'amitié,
oui.
Il expérimente sa responsabilité par rapport à son amitié.
Oui, ça c'est sûr. Ça c'est l'idéal. Mais de fait, étant donné la complexité qui est dans l'enfant, cette espèce de, vous voyez, de dualité constante qui sent en lui, suivre celui qui l'éduque. Et comme il n'a pas d'autorité, il faudra un pouvoir de coercition. Alors, la révolte contre ce pouvoir de coercition. L'autorité peut être douce, mais jamais le pouvoir de coercition. S'il n'y a pas d'autorité, le pouvoir de coercition est plus grand. Pour le gendarme. Y a-t-il entre la dialectique aristotélicienne et la dialectique hegelienne? c'est que la dialectique aristotélicienne est une dialectique au niveau de la préparation. Ça prépare au niveau des opinions, mais elle est tout de suite orientée vers quelque chose d'autre, la recherche de la vérité. Tandis que la dialectique hegelienne se veut pour elle-même. Alors, y aurait-il pas une analogie à voir par rapport à la disposition et la vertu? La disposition, au point de vue éthique, est possible dans la mesure où il y a déjà un lien avec la finalité. Les dispositions, purement dispositions, sans ce lien avec la finalité, je crois, ne peut pas maintenir une ouverture. Mais là, on touche un problème qui est très important. Alors, ça permet, vous voyez, de mieux situer éthique et éducation. Je ne fais pas un cours sur l'éducation, je fais un cours sur l'éthique. Mais je montre que toute éthique fonde une éducation. Il n'y a pas possibilité de parler d'éducation sans éthique. Et donc, sans une certaine philosophie. Un éducateur qui n'a pas de philosophie est un faux éducateur. C'est grave. Je crois qu'il ne peut pas. Parce qu'on demande à l'éducateur d'avoir une connaissance, pas seulement des faits, mais de ce vers quoi il tend. Et donc, un sens du bien et de la finalité. Savoir qu'il prépare à une disposition où qu'il est. Il est capable, par l'obéissance, de découvrir le point de vue de la vertu. Alors voyez, ceci montrerait l'importance de l'obéissance dans l'éducation. C'est pour ça que je pose la question, y a-t-il une éducation sans obéissance? Y a-t-il une obéissance sans autorité? Mais on prend les conditions sine qua non. Y a-t-il une autorité sans le point de vue religieux? Mais, comme ça, vous avez les conditions sine qua non. Je crois qu'il faut se poser ces questions comme ça. Comme ça, on arrive à découvrir, oui, c'est vrai. Mais je n'avais jamais pensé, oui, c'est vrai. Parce qu'on vit d'un patrimoine chrétien en Europe et en Amérique aussi. On vit d'un patrimoine chrétien. Et ce patrimoine chrétien est vécu comme un patrimoine qu'on n'exploite plus, qui n'est plus vivant. Et donc, il se lamine, qui diminue. Qu'est-ce qu'il y a de vital? C'est le point de vue science, progrès, les nouveaux idoles. Mais ce n'est plus le point de vue éthique. C'est la bioéthique. Alors, comme on est tombé très bas en éthique, qu'on tue sans le savoir, on a peur à ce moment-là. Sur la science. Mais non, on ne peut pas. C'est un ersatz éthique. On ne pourra pas. C'est voué à l'échec. Il faut qu'on ait conscience de ça. Parce qu'on vit dans ce monde. Alors, il faudrait pouvoir, vous voyez, philosophiquement, le montrer avec beaucoup de précision. Et c'est pas si comme. Or, on peut le montrer avec beaucoup de précision qu'en reprenant une analyse éthique. Et l'analyse éthique commence par l'amour d'amitié. Je ne peux pas commencer une éthique, une analyse philosophique d'éthique, par l'éthique religieuse ou par l'éthique chrétienne. Je ne peux pas. Parce que le philosophe regarde l'homme et la nature humaine. Et donc, je commence par une éthique de l'amour d'amitié. Puis après, une éthique de l'adoration. Puis après, une éthique chrétienne. Oui. Parce que je vois, au point de vue de l'analyse, au point de vue pratique, c'est évident. Si j'ai affaire à un chrétien, je commence tout de suite par une éthique chrétienne. Si j'ai affaire à quelqu'un qui croit dans le mystère de la création, j'ai une éthique religieuse. Si j'ai affaire à quelqu'un qui ne croit ni à ça, ni au point de vue chrétien, ni au point de vue du Créateur, qui rejette tout ça, alors je lutte contre un positivisme. Le danger, c'est le positivisme dans l'éthique. Alors je lutte pour éveiller à une philosophie de l'amour, d'amitié. C'est le premier réveil. Réveiller les gens contre une éthique positiviste. Je crois que vous voyez mieux pourquoi il y a cette éthique de l'amour, d'amitié. Parce qu'on aurait la tendance de dire, mais vous dites vous-même que c'est imparfait. Ne commencez pas par là, commencez tout de suite par quelque chose qui se tient. Attention. Le philosophe s'adresse à l'homme. Et l'homme est premièrement homme, il n'est pas... Il s'éveille à la vie religieuse. Il s'éveille à la vie religieuse. Quand les traditions sont très fortes, les traditions religieuses sont très fortes, alors il peut peut-être commencer tout de suite. Mais il y a un danger. Au plan philosophique, je crois qu'on doit toujours trouver le fondement que tout le monde peut admettre. Et leur philosophie éthique de l'amour d'amitié. Alors, je continue.
Oui, ça s'éclaire progressivement dans le sens qu'on voit mieux éthique et éducation.
Et que vous avez une éducation. Parce que l'éducation implique un art. C'est un art d'éduquer. C'est sûr. Il y a des gens qui sont des éducateurs nés. Parce qu'ils ont le sens de l'éducation, comme on dit. Donc ils sont des artistes. Des artistes au niveau de art qui aide la nature. On éveille. Un éducateur est un éveilleur. Tout le temps. Pour éveiller dans le gosse tout ce qu'il y a de virtualité. C'est un art, l'éducation. Alors, quelqu'un qui n'a aucun sens de l'éducation, même s'il est philosophe, non, pas la peine. Il faut avoir un peu cet art. Mais il faut que la connaissance. Et la connaissance psychologique ne suffit pas. Une éducation basée sur la psychologie est une éducation qui se terminera dans le positivisme. Il ne peut pas être autrement. Parce que la science de l'éducation est une science qui ne touche pas à la finalité. Alors aujourd'hui, on croit que l'éducation peut se fonder sur la science psychologique. Non. Elle doit se fonder sur le point de vue philosophique de l'homme. Alors, je crois que nous avons pas mal montré la dernière fois ce nœud très particulier que représente l'obéissance. Adoration, obéissance. Ça, c'est très important. L'adoration regarde le Dieu créateur. L'obéissance regarde aussi le Dieu créateur. Mais dans l'autre pratique. On pourrait dire, vous voyez, et c'est très curieux, que l'obéissance, c'est comme une incarnation de l'adoration. C'est comme une incarnation. Faisons attention, hein. Dites pas qu'en obéissant, vous adorez. Parce qu'à chaque fois que vous obéissez à quelqu'un que vous considérez comme l'autorité, vous ne faites pas un acte d'adoration. Mais je dis que c'est comme une incarnation dans l'ordre pratique. Et on comprend alors très bien, vous voyez, comment tout acte d'obéissance implique un sacrifice. Comme tout acte d'adoration implique un sacrifice. C'est l'aspect du sacrifice qui unit l'adoration et l'obéissance. Il y a un lien philosophique très mystérieux. Et ce lien philosophique très mystérieux, c'est justement que quand vous obéissez, vous acceptez de dépasser
le supérieur passe et dit, vous êtes libre, faites ceci. Donc, vous offrez en offrande, en sacrifice, votre jugement pratique. C'est pour ça que toujours l'acte d'obéissance implique qu'on ait la tête coupée. Une petite tête, la petite tête de l'Imperium. Et pour beaucoup, il n'y a que cette tête-là. Alors, c'est leur grosse tête. Pour ceux qui ont autre chose que ce petit jugement pratique, bon, ils obéissent beaucoup facilement. Mais pour ceux qui n'ont que ça, c'est très rude. C'est très rude. Parce que vous faites l'holocauste de votre jugement pratique pour accepter l'acte d'imperium de celui qui a autorité. Vous voyez, c'est ça le propre de l'obéissance, c'est la vertu d'obéissance. C'est pour ça que l'obéissance ne peut pas faire abstraction de l'autorité. Et vous acceptez l'imperium de celui qui est capable de vous commander. Et vous l'acceptez dans la mesure même où vous avez reconnu que celui qui vous dit ça exerce l'autorité sur vous. Il exerce l'autorité sur vous en vue de faire une œuvre commune avec vous. Tout acte d'obéissance implique une coopération. C'est pas quelque chose d'extrinsèque de l'un à l'autre. Non, non, c'est une coopération. On obéit à celui qui nous commande. Et en obéissant, on fait œuvre commune avec lui. On fait ce que lui ne fait pas et ne peut pas faire. On devient sa main, on devient ses pieds, on devient sa tête pensante. Et quand dans l'autorité, quelqu'un vous dit, vous réfléchirez sur ce problème, je n'ai pas le temps de le faire. Vous devenez la tête pensante de celui qui vous commande de faire ça et vous donnerez le résultat. Et à ce moment-là, il y a une coopération. Et les coopérations se font main, pied, tête, imagination de temps en temps, information, toute une enquête que je fais pour quelqu'un dans l'obéissance. Et ça va très loin. C'est tout l'homme qui peut être mobilisé. Sauf domaine de l'obéissance ne s'étend pas d'une façon exhaustive à tout l'homme. Il y a des limites naturelles à l'obéissance. La limite naturelle, c'est l'adoration. J'adore Dieu. L'adoration est plus que l'obéissance. Je me remets entièrement entre les mains de Dieu. L'adoration, la contemplation, l'amour d'amitié. Je ne peux pas commander à quelqu'un d'être l'ami de cet autre. Je ne peux pas commander à quelqu'un de supprimer une amitié naturelle. C'est un droit naturel, l'amour d'amitié. Voyez là les limites. Et j'irai, alors en précisant, on pourrait dire que l'autorité naturelle ne peut pas commander tout problème de l'amitié. Donc, le problème de la famille, et donc le problème de la fécondation, de la fécondité, de la procréation. Oui. C'est important de saisir tout de suite les limites naturelles de l'obéissance, de l'autorité, et donc de l'obéissance. Qu'est-ce qui ne relève pas du domaine de l'obéissance? Qu'est-ce qui en vous échappe à ce domaine de l'obéissance? De l'obéissance naturelle, de l'obéissance éthique naturelle. Je ne parle pas de l'obéissance chrétienne. Parce que dans l'obéissance chrétienne, tout y passe. C'est le propre de la profession. Tout y passe. N'est-ce pas mettre des restrictions? On vous demande de faire un testament. Oui, oui, ce n'est pas des restrictions. Là-bas. C'est tout simplement pousser la dernière cigarette que vous fumez. Vous faites un acte, votre testament. Et comme il n'y a pas grand-chose, c'est très facile, il n'y a que des cendres. Mais des cendres. descendre peuvent naître une mine d'or. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'on demande de faire un testament. Mais c'est vrai que c'est dans la profession religieuse qu'on fait, dans l'obéissance, tout y passe. Dieu peut demander la chasteté parfaite, le célibat. Aucune autorité naturelle ne peut demander ça. Aucune. C'est propre à Dieu. Et là, l'obéissance rejoint l'adoration.